Chapitre 11. Immoralité de la théologie de Rome. Messieurs les abbés Rimbaud et Leproon étaient et sont encore à mes yeux des hommes aussi vénérables qu'on peut l'être dans l'Église romaine. Ils étaient les victimes des mêmes illusions que moi. Comme moi et comme tous les prêtres de Rome, ils étaient plongés, sans le savoir, dans la plus dégradante ignorance morale. Ils se débattaient comme moi sous un joug qui enchaînait leur intelligence et souillait leur cœur. Nous étions tous ensemble embarqués sur un vaisseau magnifique en apparence, mais ce navire, mal piloté, devait se briser sur des rochers inconnus où nous avons tous fait naufrage et où j'aurais infailliblement péri moi-même si le Seigneur ne m'eût sauvé comme par miracle. Je puis les plaindre, mais les haïr, les mépriser, jamais. Ce n'était pas plus leur faute si Rome nourrissait ma jeune intelligence de fables et d'ordures que ce n'était la mienne s'ils n'avaient eux-mêmes jamais eu d'autres aliments. Il était visible d'ailleurs que ces deux hommes souffraient profondément quand ils se voyaient obligés de nous entretenir de ces honteuses questions. Leur conscience d'honnête homme, qui voulait leur imposer silence, était évidemment en conflit avec leur conscience de prêtre et d'esclave du pape qui leur disait « parlez ». Après chacune de ces leçons, nous nous retirions tout honteux de ce que nous venions d'entendre, car ces infamies s'attachaient à nos cœurs comme la rouille s'attache à l'acier le plus poli pour le dévorer. Plus d'un de mes compagnons d'études en théologie m'a avoué, avec des larmes de rage et de honte, qu'il regrettait de s'être engagé par les vœux du sous-diaconat à servir l'Église de Rome. Un jour, l'un d'eux, nommé François Désaulnier, se trouvant indisposé et se faisant soigner dans ma chambre, me dit sans détour « Chiniki, que penses-tu des matières qu'on nous fait étudier depuis quelque temps ? N'est-il pas souverainement honteux de nous remplir l'imagination de pareilles ordures ?»« Je ne puis assez te dire, lui répondis-je, le dégoût que j'éprouve. Si j'avais pensé qu'on devait nous faire marcher dans une pareille boue, je ne me serais assurément pas enrôlé sous la bannière à laquelle j'ai cloué, comme toi, mon avenir. Sais-tu que je suis décidé à ne jamais être prêtre ? Me répliqua Désaulnier. Car lorsque je songe que les prêtres sont obligés de parler aux femmes qu'ils confessent de toutes ces matières, le cœur me manque d'avance. Je ne suis pas moins troublé que toi sur mon avenir, lui répondis-je. La tête me tourne et le cœur me manque aussi lorsque j'entends les théologiens nous dire qu'il nous faudra questionner les femmes et les filles sur ces horreurs. Il me semble que c'est un rêve pénible qui se dissipera. Je ne puis réellement croire que notre Église, si pure et si sainte qu'elle ne veut se faire servir que par des vierges, nous obligera à souiller notre langue, nos pensées, notre âme et notre corps même en parlant à des femmes sur des questions dont la simple pensée fait rougir. Mais voici l'heure où M. Leproon a coutume de nous visiter. Veux-tu me promettre de me soutenir dans les observations que je vais lui faire à ce sujet ? J'espère obtenir de lui l'assurance que nous ne serons pas obligés de nous souiller au confessionnal par ces questions. Il est si honnête et si saint lui-même qu'il n'a jamais dû faire à ses pénitentes ces honteuses questions. En dépit de ce qu'affirment les théologiens, M. Leproon va nous donner à espérer qu'il nous sera permis de garder nos lèvres et nos cœurs chastes, même en confessant les femmes. « Il y a longtemps que j'ai la pensée d'en parler à notre saint directeur, » me répondit Désaulnier. « Mais il m'en coûtait toujours d'aborder cette question. Je suis donc content que tu en prennes l'initiative. Nous allons savoir mieux que jamais à quoi nous en tenir sur les mystères du confessionnal. Si on nous dispense d'interroger les femmes sur ces sujets immoraux, je consentirai à être prêtre. Autrement, mon parti est pris. Je ne le serai jamais. » Quelques minutes après, M. Leproon entrait pour savoir comment nous avions passé la nuit. Après lui avoir exprimé notre reconnaissance de sa bonté envers nous, j'ouvris les volumes de Dins et de Ligori qui se trouvaient sur la table et, montrant du doigt, tout en rougissant de honte, les infâmes questions traitées dans ces pages, je lui dis « Après Dieu, c'est vous qui occupez la première place en mon cœur. Depuis que ma mère est morte, j'ai concentré sur vous toute l'affection filiale que je lui portais. Vous êtes mon bienfaiteur et mon père. Vous allez donc me donner des lumières et les directions dont j'ai besoin en cette heure de trouble par laquelle le bon Dieu veut que je passe. Sur votre conseil, j'ai reçu dernièrement l'ordre du sous-diaconat et j'ai fait le vœu de chasteté perpétuelle. Mais je dois vous l'avouer, je ne savais guère ce que je faisais. Et Désaulnier vient de me dire la même chose. Avant ces dernières semaines, il ne comprenait pas mieux que moi la nature de ce vœu ni les difficultés qui surgiront à ce sujet à chaque pas de notre vie de prêtre. Mais Dins et Ligori ont développé en nous de nouvelles connaissances. Ils nous ont fait marcher dans des régions toutes nouvelles et inexplorées pour nous. et je suis bien convaincu que non seulement tous ceux qui ont fait les mêmes vœux depuis que je suis au séminaire, mais encore tous les prêtres qui fréquentent cette maison pourraient en dire autant. Mais je ne parle pas ici pour eux, je ne parle que pour Désonnier et moi-même. Dites-nous si nous serons réellement obligés de parler aux femmes et aux filles que nous confesserons des matières impures et indécentes mentionnées par ces théologiens. Sans aucun doute, nous répondit M. Lepron. Les vénérables et saints théologiens dont nous avons les écrits sous les yeux sont positifs sur ce sujet. Il faut de toute nécessité que vous interrogiez vos pénitentes sur ces matières, car les femmes sont, en général, trop timides pour avouer d'elles-mêmes les péchés dans lesquels elles tombent encore plus souvent que les hommes. Mais, lui répliquai-je, vous nous avez fait faire serment de rester chaste toute notre vie, et voici que vous nous mettez dans l'impossibilité absolue de tenir ce serment. Car les théologiens sont unanimes à nous dire que les questions qu'il nous faudra adresser à nos pénitentes et les aveux qu'elles devront nous faire de leurs actions impures et secrètes agiront puissamment sur nos organes et que nos corps en seront souillés. Ici, Désolnier m'interrompit en disant à M. Lepron : Ce que Chiniki vous dit là est justement ce qui me trouble et m'épouvante aussi. Ne serons-nous pas plus chastes et plus purs en vivant avec nos épouses ? Je pourrais bien paraître chaste aux yeux des hommes, mais que serais-je devant Dieu ? Le peuple me croira fort, honnête, pur, mais je ne serai qu'un roseau brisé, et Dieu sera témoin que la confession d'une femme m'aura fait tomber dans l'abîme en m'arrachant la couronne de chasteté que j'aurais pourtant payée si cher. Les hommes me vénéreront comme si j'étais un ange de pureté, mais ma conscience me dira que je ne suis qu'un habile hypocrite. Le confessionnal est, de l'aveu de tous les théologiens, de votre aveu même, le tombeau infaillible de la pureté de l'âme et du corps. Je ne serai donc plus qu'un de ces tombeaux recouverts d'or et de parfums, mais rempli de pourriture et d'infection. Ce discours, d'une hardiesse sans pareille, avait visiblement affligé et surpris notre pieux supérieur. Il était bien rare que ses élèves lui parlaient avec cette indépendance. Il ne nous cacha pas la peine profonde qu'il éprouvait de notre hardiesse. Après nous avoir repris avec autant de fermeté et de charité que possible sur ce qu'il appelait notre attaque antichrétienne contre une des plus saintes lois de l'Église, il réfuta de son mieux Désolnier, puis il me parla à peu près en ces termes. « Mon cher Chiniki, je te l'ai déjà dit bien des fois, tu t'occupes trop à raisonner quand la religion te dit que tu ne devrais qu'obéir avec l'humilité et la docilité d'un enfant. À t'en croire, il faudrait réformer l'Église, abolir la confession des femmes, jeter les livres de théologie au feu pour en faire de nouveau plus conformes à tes idées. Qu'est-ce que cela prouve ? C'est que le démon de l'orgueil te tourmente, comme il a toujours tourmenté les réformateurs avant de les perdre. La théologie de saint Thomas, de Dins et de Liguori est approuvée par les évêques et les papes. Elle est approuvée par l'Église tout entière. Comment ne vois-tu pas le ridicule, l'impiété et le danger de ta position ? D'un côté, sont rangés tous nos saints papes, nos vénérables évêques, nos savants théologiens et prêtres, sans compter les 200 millions de fidèles qui, comme une innombrable armée, les soutiennent. Et qu'est-ce que je vois de l'autre côté ? Pour attaquer et renverser cette invincible armée de Dieu ? Mon pauvre petit, quoique bien cher Chiniki. Comment ne trembles-tu pas d'opposer ta faible raison à la raison supérieure de tant de grands papes, de saints évêques, de nombreux théologiens, de l'Église tout entière ? N'est-ce pas comme si le petit grain de sable qui était là-bas, au pied de la montagne, s'avisait de renverser la montagne ? Ne dirait-on pas que la petite goutte d'eau veut repousser l'océan hors de son lit profond ou changer les courants irrésistibles des mers polaires ? Crois à mon expérience. Suis mes conseils avant qu'il soit trop tard. Que le petit grain de sable reste tranquille à la base de la montagne, c'est ce qui convient à son extrême petitesse. Que la goutte d'eau se laisse entraîner, sans murmure, par les grands courants des mers sans rivage, et tout ira mieux pour elle. Tous les bons prêtres qui ont confessé avant nous se sont sanctifiés, bien que leur corps ait été souillé par la confession des femmes. Ces misères ne sont que des infirmités de la nature humaine. Elles ne peuvent souiller une âme qui veut rester unie à Dieu. Le rayon de soleil se souille-t-il en descendant dans la boue ? Non, ce rayon reste pur. Et il retourne sans tache vers l'astre radieux d'où il émane. Le cœur d'un saint prêtre comme sera le tien, je l'espère, est semblable au rayon de soleil dans la boue. Il reste pur et sans tache, même au milieu des accidents inévitables à la confession. Dans votre ordination, vous recevrez des grâces d'État qui vous transformeront en de nouveaux hommes. Vous prierez la Sainte Vierge et cette bonne mère vous obtiendra toutes les grâces dont vous aurez besoin. Les faiblesses dont les théologiens parlent et auxquelles, je vous l'avoue, tous les prêtres qui entendent les confessions des femmes sont sujets, ne doivent pas vous troubler, puisque l'Église vous assure qu'elles ne vous seront pas imputées à péché. D'ailleurs, je ne veux plus que vous me parliez de ces questions. Et, autant que mon titre de directeur m'en donne le droit, je vous défends d'en parler entre vous. J'avais eu l'espoir que notre cher M. Lepron nous répondrait par de bonnes raisons. Mais c'était par un coup d'autorité qu'il voulait empêcher la voix de nos consciences de se faire entendre. Cependant, l'idée de cette goutte d'eau en révolte contre le vaste océan, de ce grain de sable voulant renverser la montagne, m'avait singulièrement frappé et humilié tout à la fois. J'en restais tout anéanti et confus, mais je n'étais pas convaincu. Et ce rayon de soleil, qui ne se souillait pas, même en descendant dans la boue, et qui remontait toujours pur vers l'astre radieux d'où il émanait, tout en m'éblouissant par ses beautés, me laissait au fond de l'âme un trouble inexprimable. J'avais comme le pressentiment que j'étais en présence d'une grande imposture et d'un brillant sophisme, dont je n'avais ni le courage ni la force d'approfondir et de réfuter la fausseté. Presque tous les mois, depuis plus de 10 ans que j'étais au séminaire de Nicolet, des prêtres du diocèse des Trois-Rivières et d'ailleurs venaient par ordre des évêques passer des semaines entières en retraite et en pénitence forcée. Tous ces faits, qui étaient aussi évidents que la lumière du soleil en plein midi, s'harmonisaient bien peu avec les brillantes théories de notre directeur sur ces rayons de soleil qui ne se souillaient jamais, même en descendant dans la boue. Il m'était plus d'une fois venu à la mémoire pendant son discours et plus d'une fois j'avais ouvert la bouche pour lui demander si tous ces rayons de soleil, les prêtres, avaient réellement fait le voyage de la boue à l'astre lumineux sans emporter avec eux quelques grains de la poussière de la terre. Mais le respect que je lui portais m'avait chaque fois commandé le silence. Lorsque je fus seul, je demandais pardon à Dieu d'avoir osé penser autrement que les papes et les théologiens de Rome, d'avoir osé, un moment différé d'opinion, avec ces 2000 évêques et ces 200 millions de fidèles auxquels j'étais uni par les liens de la foi. Je m'en voulais d'avoir eu l'impardonnable présomption d'opposer un seul instant ma misérable petite intelligence à tant de grandes et saintes intelligences. Dieu seul sait quelle terrible nuit je passais entre les cris de ma conscience et la voix menteuse des théologiens de Rome. Je me roulais sur mon lit que j'arrosais de mes larmes. Je criais à Dieu d'avoir pitié de moi. Et le Seigneur, qui est riche en miséricorde, a vu mes larmes. Il a entendu les cris de ma douleur. Il a eu pitié de moi. Mais l'heure de mon salut et de ma délivrance n'avait pas encore sonné. Dieu voulait me laisser plus longtemps dans la terre d'Égypte, accablé par le joug pesant et dégradant de Pharaon. Il voulait que je connaisse toutes les ténèbres et toutes les plaies de cette terre d'esclavage afin de me faire soupirer davantage après les saintes lumières et les joies pures de la terre promise dans laquelle sa miséricorde devait plus tard me conduire. Que son saint nom en soit éternellement béni. François Désaulniers, qui, comme il me l'avait dit, n'a jamais voulu être prêtre, est resté dans les ordres du diaconat toute sa vie. Il professait la philosophie à Nicolet. C'était un homme qui parlait peu, mais qui pensait beaucoup. Il me semble le voir encore, se retirant à l'écart et restant seul et pensif des heures entières, pendant que les autres élèves et les professeurs s'amusaient, chantaient et se promenaient sur les bords enchanteurs de la rivière Nicolet. Il était bon logicien et habile mathématicien. Mais quoique affable envers tous, il était peu communicatif. J'étais probablement le seul avec qui il s'expliqua sur les doutes et les inquiétudes dont il était constamment assiégé sur les grandes questions de l'Église, de la foi, de l'histoire et de la discipline ecclésiastique. Il me répétait souvent « Je voudrais n'avoir jamais ouvert un livre de théologie. Nos théologiens n'ont ni cœur, ni âme, ni logique. Les uns approuvent le vol, le mensonge, même le parjure. D'autres nous traînent, sans honte et sans pudeur, dans des marais de boue et d'ordures qui soulèvent le cœur. Presque tous voudraient faire de nous des assassins. Suivant eux, Jésus-Christ ne serait qu'un chef de brigands. Ses disciples ne devraient prêcher qu'armés du fer et du feu, afin d'exterminer les impies et les hérétiques. Si nous croyions les théologiens, nous devrions massacrer tous les protestants pour les mêmes raisons qu'on assomme les loups qui rôdent autour de nos bergeries. Les mains encore teintes du sang de la Sainte-Barthélemy, nos théologiens nous parlent de religion, de charité et de Dieu, de façon à faire entendre qu'il ne peut y avoir au monde ni religion, ni charité, ni Dieu. »